Donc on va passer maintenant au discours des, on va passer maintenant au discours des images. Et en fait, tout commence en fait assez mal, puisque quand on prend la Bible des archéologues, c'est-à-dire le fameux lexique de la mythologie classique, on y lit qu'en fait, la métamorphose de Tithonos en cigale n'a jamais été représentée dans l'iconographie classique. Que Tithonos ne joue donc dans In der Antike Kunst keine eigene Rolle. Il n'a pas de rôle en lui-même. Il n'aurait existé qu'au travers de la passion qu'il inspire à Eos, en tant que jeune homme enlevé, comme on le voit sur le fond de cette coupe attique du peintre de Télef, vers 470. On le soupçonne aussi sur quelques reliefs méliens en terre cuite de la même période, où la rigidité du personnage porté par celle qu'on pense être peut-être Eos pourrait faire référence au processus de dessèchement dont Tithonos va souffrir. Il y a aussi cette petite plaque étrusque en or où une figure ailée semble verser un liquide, est-ce de l'ambroisie, sur un homme allongé dans un panier, est-ce ce panier berceau, est-ce Eos en train de nourrir Tithonos, mais d'autres interprétations sont possibles. En fait, les ambiguïtés du vieillissement, on les reconnaît mises en scène que dans le combat qui oppose Héraclès à Géras sur les vases attiques, une toute petite série de vases attiques. En Géras, ainsi nommé par une inscription, donc personnification du vieillissement, sous la forme d'un petit personnage malingre, à la fois grotesque et effrayant, qui semble bien représenter la peur de la maladie et des pathologies déformantes. Et c'est Héraclès à qui il revient de le maîtriser au cours d'un exploit, il faut le relever, qui n'apparaît dans aucun texte. Donc une absence qui nous interpelle quand on connaît la richesse de l'exploration du thème de la métamorphose dans l'art grec. Et je renvoie aux beaux travaux de Françoise Frantisi sur l'homme cerf et la femme araignée. Mais ce n'est peut-être qu'une apparence, et peut-être qu'il faut faire un addendum au Limic. Puisque un Tithonos peut être identifié à l'époque romaine, et plus particulièrement à l'époque tardo-républicaine, sur un support miniaturisé, les intailles, ces pierres gravées, serties en bagues ou en pendentifs, qui véhiculent un discours identitaire, et là il y a une dimension individualisée qui sera intéressante aussi pour la discussion, alors des choix qui peuvent être politiques, amoureux ou philosophiques. Des pierres probablement réalisées par des artistes grecs à l'intention d'une élite hellénisée romaine. Et l'identification de cette figure est importante, c'est pour ça qu'on va vous la soumettre, parce qu'elle offre le grand intérêt de témoigner du processus continu de réappropriation et de resémantisation des mythes grecs à l'époque romaine, d'une fabrique incessante de mythes, en particulier dans la glyptique, où fleurissent de nouveaux motifs inconnus dans la tradition grecque classique. Et en fait, on comprend que ce Tithonos s'est échappé parce qu'en fait, il ressemble au premier regard à la figure, on ne sait pas lui maintenant, hein, à la figure du pygmée drôlatique qui est gravé sur des pierres de la même période. Ça, c'est le pygmée typique. Aussi un homme des confins, relevez-le, hein, figuré en train de combattre les grues qui ravagent leurs récoltes ou chevauchant cette grue d'une manière un peu ridicule. Sur une toute petite série de pierres, on a une variante. Au premier abord insolite, on a ce pygmée en train de marcher, portant sur le dos une grue morte, donc le combat est terminé, et sa petite taille est suggérée par celle de l'oiseau. Un pygmée caractérisé par un grand sexe, en vieux topos, hein, déjà présent en Grèce classique, par une longue barbe, que l'on pourrait rapporter aux descriptions qu'on trouve par exemple dans la fameuse histoire des Indes de Ctésias de Cnide, et je résume le texte qui est à l'écran, Ctésias de Cnide qui dépeint ces pygmées comme des modèles de laideur, avec un sexe très long qui pend sur leurs chevilles, et une barbe la plus longue de tout le genre humain, au point qu'elle traîne jusqu'à leurs pieds, et dont ils s'enveloppent comme d'un manteau. Et dans une série contiguë de pierres de la même époque, c'est un insecte qui prend la place de la grue. Et au premier abord, on se dit, c'est comme pour souligner la petite taille du chasseur, c'est une façon de décliner le thème du monde à l'envers, comme sur cette sardoine conservée à Hanovre, où on voit cet homme nu, avec une très longue barbe, on retrouve le grand phallus, les membres très maigres cette fois, qui marchent en portant un insecte, alors on ne va pas essayer d'identifier, parce qu'il y a toute une déclinaison, et je ne pense pas que le but du graveur est de dire exactement lequel, disons, de type orthoptère, hein, dont il tient les pattes. Alors, dans les variantes, on a parfois l'ajout du bâton, comme sur cette cornaline conservée à Munich, il s'appuie en marchant. Ça montre bien la faiblesse de ses jambes. Ou sur la sardoine de New York, à droite, on distingue à nouveau ce bâton. Ces personnages diffèrent cependant des pygmées, donc par ce corps extraordinairement émacié, voire décharné, hein, comme on le voit à droite, un dessèchement très marqué. Le personnage n'a plus que la peau sur les os, hein, ce que les Allemands appellent le Hautskelett. Et à gauche, ce qui est intéressant, sur la cornaline de Berlin, on voit que le graveur a souligné l'apparence squelettique de l'homme en marquant ses côtes avec une boutrolle. La pièce la plus intéressante et la plus ancienne de la série, donc on est toujours 2e, 1er siècle avant, c'est là, c'est fin du 2e siècle avant Jésus-Christ. L'homme barbu, émacié, porte une sauterelle de taille géante dans une composition qui crée un jeu de miroir entre l'homme et l'insecte. Aux membres effilés de l'animal correspondent les longues jambes maigres et fléchies de l'homme voûté qui s'appuie sur un bâton qui à nouveau suggère une démarche difficile, mais un bâton qui est tordu comme l'est son corps. Et on a un tout qui compose un ensemble de lignes brisées, on n'a aucune courbe, qui évoque la rigidité qui oppose l'homme âgé à l'enfant, défini par sa souplesse et sa plasticité. Et en fait, c'est donc un trait commun qu'on retrouve dans toute la série. C'est aussi cette insistance sur le rendu des articulations qui suggère des membres déformés par des pathologies articulaires. Et là, on pense bien sûr au maxime de Ptahotep qu'on a vu hier, l'os s'est mis à être douloureux, un motif qu'on va retrouver sur les gemmes dites magiques en hématite avec l'image du moissonneur, de l'homme courbé qui doit écarter ou soulager les maux de sciatique, avec tout un jeu aussi avec la valeur de l'hématite. Cette correspondance visuelle entre l'homme et l'insecte explique les noms que les catalogues de glyptiques donnent à cette figure. L'homme est qualifié tantôt de pygmée, tantôt de Zikadenmann, donc l'homme cigale, d'homme insecte, voire de caricature. La puissance des liens qui unissent la cigale et l'homme âgé nous incite à y reconnaître Titonos, portant sur son dos son double, ce qu'il va devenir, un insecte qui lui ressemble, au corps desséché et au statut ambigu, presque divin. Et je ne reviens pas sur tous les liens qui unissent la cigale et l'âge, comme Vinciane Pirenne l'a bien présenté. Je reviens sur le discours spécifique que ces pierres véhiculent sur le vieillissement et sur une aspiration à une forme de régénération traduite par différents procédés. Tout d'abord, le groupe nous transmet l'image mentale du processus du vieillissement mis en scène par un mouvement, celui de la marche. Et ça, ça correspond au discours littéraire. La vie est comparée à un parcours inexorable, à une marche. Cicéron nous parle des progrès de l'âge. Plus important encore, comme très souvent en iconographie antique, un jeu de mots est mise en image, et c'est cela qui va nous ouvrir de nouveaux horizons eschatologiques. Le terme grec « géras », qui désigne la vieillesse, comme on l'a vu, signifie aussi la mue de la cigale et d'autres animaux, comme le serpent. Et c'est la même chose en latin. « Senecta » désigne à la fois la vieillesse et la mue de la cigale, ou du serpent. On parle de serpentium senecta, la dépouille du serpent. Et c'est une homonymie qui traduit visuellement, qui est traduite visuellement et qui accorde une dimension métaphorique exceptionnelle sur ces pierres, avec une promesse de libération et de renaissance. Alors c'est un thème qui parcourt le monde grec et romain. Je vous montre rapidement le texte d'Aristote qui compare la mue de la cigale, du serpent et du foetus. promesse de régénération. Hein, en une nuit, un jour, la vieille peau se détache tout entière, le serpent se dépouille, comme les foetus se débarrassent de leur corion. C'est encore de la même manière que ce changement de peau se fait chez les insectes, qui se dépouillent aussi. En latin, image similaire. Lucrèce reprend cette comparaison entre la mue des cigales, les membranes des petits veaux et la peau du serpent, telles les rondes tuniques qu'à l'été abandonnent les cigales. Voilà. Cette comparaison entre la mue de la cigale et le processus de rajeunissement est explicite chez Callimaque, à l'époque hellénistique. Le chant du poète est comparé à celui de l'insecte nourri de rosée qui se dépouille de la vieillesse en muant. Hein, je vais chanter, hein, et la vieillesse, hein, puissais-je en secouer le manteau, c'est-à-dire m'en dépouiller. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, le milieu cultivé qui commandite les pierres gravées pour servir de sceau personnel ou de bijoux connaît l'histoire de Titonos, comme le montre l'ouverture du De Senectute ou du Cato Maior de Cicéron, à la même époque, qui d'emblée déclare qu'il ne choisira pas l'exemple de Titonos pour parler du bien vieillir. Comme le montre aussi la scène gravée sur une pierre conservée au musée Getty à Malibu. Alors qu'est-ce qu'on voit sur cette scène? Elle représente la fuite d'Aîné, qui est de face, hein, vêtu d'une cuirasse, portant son père en quille sur son épaule droite. De sa main gauche, il saisit la main d'un petit enfant, sans doute son fils, Ascagne. C'est un sujet bien connu qui apparaît pour la première fois sur un autre support miniature, la monnaie, ici un denier de César, vers 47-46 avant Jésus-Christ, où César l'utilise pour affirmer son lien généalogique avec le héros fondateur de Rome, mais aussi avec Vénus, Vénus diadémée, qui se trouve au revers. Sur la gemme du Getty, un détail insolite frappe l'attention. Sur la ligne de sol, exactement entre les pieds d'Aîné, se trouve un insecte que la notice du musée décrit ainsi. But an insect is depicted, very likely a cicada or a cricket. The bug is probably symbolic, but its meaning is unknown. Pour moi, il s'agit d'un clin d'œil à la cigale que devient Titonos, au destin que décrit Aphrodite à Anchise, et un clin d'œil aussi qui rend visible au second degré la narratrice du récit de l'hymaphrodite. Et pour moi, c'est une pierre qui a dû appartenir à une personne d'un rang élevé, proche de la gens Iulia, qui a fait ce petit ajout très cultivé pour montrer sa connaissance littéraire du mythe. Le Titonos à la cigale véhicule aussi un discours philosophique et eschatologique à mettre en rapport avec le développement à la même époque, et donc ça c'est une coïncidence qu'il faut relever, d'une autre image de corps desséché, celle du squelette. Sur une calcédoine, aussi conservée à Hanovre, on voit ce squelette debout de face, c'est à droite, la tête légèrement inclinée, le coude appuyé sur une amphore, tenant de l'autre main une cruche. À gauche, la sardoine de Berlin, deux squelettes tiennent l'aisance d'une grande amphore debout entre eux. L'un a les jambes croisées, l'autre le couronne. Un groupe qui renvoie à la notion bien connue du carpe diem, associé à un discours épicurien, évitant à profiter du moment présent, car la fin est inévitable. Une thématique bien illustrée dans le décor des fameux modioli en argent de Bosco Reale, où on voit les squelettes de poètes, de philosophes grecs, dont Zénon et Épicure, les deux fondateurs du stoïcisme et de l'épicurisme, accompagnés de sentences qui invitent à profiter de l'instant présent. Elles sont gravées en pointillés, je vous les ai reproduites. Revenons à cette relevons donc que cette image du squelette est conventionnellement aussi associé à un insecte, mais un autre insecte, c'est le papillon, donc aussi un insecte à chrysalide. Et en jouant avec un autre jeu de mots en image, puisque psyché signifie le papillon, mais signifie aussi l'âme. Et sur une gemme, ici de Berlin, on voit ce philosophe assis sur une chaise à haut dossier qui contemple un crâne surmonté d'un papillon. L'autre pièce nous montre le squelette associé au papillon avec l'expression tocro, acquiert, jouit, invitant à nouveau à profiter de l'instant présent. En d'autres termes, au papillon du squelette correspond la cigale du vieillard, et chaque groupe tient à sa manière un discours sur le rapport du corps et de l'âme et une manière de penser leur séparation. L'un tiré des spéculations épicuriennes, le squelette et le papillon, l'autre du stoïcisme, avec Tithonos et la cigale, qui véhiculent une touche d'espoir, celle que transmet l'image de la mue, promesse de régénération, voire de renaissance. Cette métaphore de la cigale, de cette mue libératrice, se trouve dans une satire ménipée, dédiée à Tithonos par Varron, et on est toujours dans la même période. C'est pour ça qu'elle est importante. Évidemment, on n'en a plus que 5 vers, hein, mais Varron va utiliser cette image pour décrire l'envol de l'âme qui quitte son enveloppe corporelle appelée cortex. Et je pourrais citer encore plusieurs autres passages qui parlent de cette transformation, de ce départ de l'âme, de l'enveloppe corporelle. Je citerai simplement les pensées de Marc Aurèle pour montrer une longue durée, hein, et où là, on la retrouve cette métaphore de l'enveloppe, hein, ne maudis pas la mort, hein, fais-lui bon accueil, attends ce moment, et il fait de nouveau une comparaison avec la naissance, hein, tu attends bien le jour où ta femme mettra au monde l'enfant qu'elle porte en son sein, de même aussi, tu dois accueillir l'heure où ton âme se délivrera de son enveloppe. Et en fait, l'identification d'un Tithonos sur ces gemmes de l'époque tardo-républicaine, une sorte d'effet domino, qui peut nous permettre d'élucider le sens d'autres pierres, comme par exemple celle-ci, assez curieuse, donc toujours ces pierres qui sont portées soit en bijoux, en tout cas comme sceau, donc avec cette valeur identitaire, où le visage d'un humain se confond avec le corps d'un insecte, est-ce une cigale, est-ce aussi pour traduire cette option, ce désir de régénération. En conclusion de ce parcours, et j'ai fait un petit clin d'œil à l'idéogramme de la vieillesse qu'on a vu hier dans le monde égyptien, pour dire à la fois qu'on est dans une iconographie qui travaille avec des éléments qu'on pourrait imaginer atemporels, mais en même temps, il faut vous montrer combien le discours est différent. On reprend le même type de motif, l'homme courbé, le bâton, etc., mais avec l'ajout de la cigale. Donc j'aimerais souligner combien la mise en image de Tithonos et de sa cigale entre en résonance avec tous les thèmes qu'on a vus hier au Proche-Orient ancien, en Égypte, avec un vocabulaire iconographique similaire, hein, mais avec de nouvelles déclinaisons. Puisque le graveur a représenté ici l'image d'une vieillesse non désirable, le corps amaigri, voûté, affaibli, mais d'une image acceptée comme faisant partie d'un processus qui mène à une régénération, voire à une renaissance possible, au travers de l'image de la mue, de la cigale. Et tout cela avec une dimension personnelle, individuelle, contenu dans ce bijou qui va servir de sceau. Nous vous remercions de votre attention.